les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Orientation des valeurs. Voilà le thème, ou plutôt, disons, l'axe principal, choisi par Brigitte et Jean Massin pour le cinquième cycle de leur série Ludwig von Beethoven, année 200. Série diffusée la première fois en 1970 pour le bicentenaire de la naissance du compositeur, d'abord articulée sur la situation de Beethoven dans son contexte historique et politique, puis sur la complexité et l'unité de l'homme Beethoven, sur les intentions et l'architecture de son œuvre, sur l'écriture musicale, enfin, dans ses différentes composantes. Par toutes ces propriétés singulières vont être dégagées, peu à peu, des valeurs qui se révéleront jusqu'à nos jours.
Il faut commencer par une déclaration de principe. En débutant par une émission sur Beethoven, père du romantisme, cette cinquième série où nous allons examiner l'action, la répercussion de l'œuvre beethovenienne, de la création beethovenienne sur la musique et sur les hommes de son temps au nôtre, nous nous trouvons convaincus, Olivier Alain qui est avec nous, Brigitte et moi, que le romantisme n'est pas encore terminé. Et qu'en disant Beethoven, père du romantisme, nous entendons bien, non pas une période qui se terminerait vers 1840 ou 1870, mais une période qui a commencé, peut-être par exemple le jour où Jean-Jacques Rousseau disait, en commençant ses confessions, « Je forme une entreprise qui n'a pas d'exemple et qui ne connaîtra pas d'imitateur. » Pas d'imitateur, il y en a eu, mais précisément depuis Jean-Jacques Rousseau et depuis notre Beethoven, tous ceux qui ont fait quelque chose de valable n'ont pas essayé d'imiter et ont essayé à leur tour de former des entreprises qui n'avaient pas d'exemple. C'est sur ce sens de l'histoire, du devenir continuel, donc de la modernité nécessaire et en même temps de la primauté de l'individu, que se trouve, il nous semble, orienter toutes les valeurs esthétiques à partir de ce moment jusqu'à nous. Et il semble qu'ici, la place de Beethoven dans l'histoire de la musique soit déterminante. Plutôt que de nous demander davantage ce qu'est le romantisme avec des mots, il vaudrait mieux, je crois, interroger la musique et, par exemple, demander à Olivier Alain comment il voit concrètement ce passage de la musique antéromantique à la musique romantique avec Beethoven.
C'est une chose impossible à faire en quelques minutes. C'est pourquoi je voudrais partir d'une idée très simple et présente, je pense, à l'esprit de tout le monde. Un des traits, je pense, les plus courants de la musique romantique est peut-être celui qui revient à dire qu'elle a tendance à s'éloigner de la conception de la musique pure, que c'est quelquefois une musique à programme, une musique associée à des idées, à des images, à des thèmes, à des arguments. Mais lorsque cette idée est avancée, on peut aussitôt lui faire une critique et dire « Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque baroque ?» Lorsque Couperin composait des portraits de ses proches ou des gens qu'il connaissait au clavecin, lorsque Johann Kuhnau, dans ses sonates bibliques, nous écrivait des espèces de bandes dessinées d'événements bibliques pour le clavecin, lorsque Jean-Sébastien Bach écrivait sur un ton mi-éploré, comique, le capriccio sur le départ de son frère bien-aimé, lorsque Telemann consacrait encore un morceau d'orchestre au voyage de Gulliver, lorsque Vivaldi prétendait évoquer avec une très grande précision les quatre saisons, s'agit-il déjà d'une fuite hors de la musique pure ? Je pense qu'il y a justement une différence à faire et peut-être nous aidera-t-elle à mieux voir le rôle de Beethoven, de frontière, de transformation dans l'esprit même de la musique. Parce qu'il faut se souvenir, et la chose a été exposée souvent, que la musique baroque, même en France, reposait sur une théorie de la musique peinture. Peinture d'objets, à la rigueur peinture de sentiments. et que, de ce fait, si elle paraissait un prodrome du romantisme, elle s'en écartait par le côté objectiviste. C'est pourquoi j'ai pu employer le terme de bande dessinée, qui est évidemment très irrespectueux, mais qui implique le côté fragmenté, suite d'images, des sonates bibliques de Johann Kuhnau, dont d'ailleurs je regrette beaucoup que certaines ne soient pas plus connues et plus souvent jouées. La peinture de Vivaldi dans les quatre saisons, cette peinture en musique, c'est le terme même qu'emploient à cette époque les esthéticiens, la peinture reste naïve. On peut dire que chez chacun de ces musiciens, la musique resterait belle indépendamment du programme, quoique quelquefois un peu sans explication dans sa brièveté. Tout au plus, dans le cas des quatre saisons de Vivaldi, sommes-nous sensibles à un caractère que je dirais tempéramental, emporté, méditerranéen, si on néglige l'argument. En quoi alors Beethoven, héritier bien sûr du baroque comme du Sturm und Drang, de tous les mouvements qui l'ont précédé, peut-il être en ce domaine le père du romantisme? Je pense que chez lui, la peinture musicale et même si l'on veut, le théâtre musical sont devenus assez sincèrement personnalisés, assez intensément psychologiques pour arriver à imbiber, à baigner de l'intérieur et à animer des constructions sonores de longue durée. Et peut-être y serons-nous sensibles d'une façon immédiate si nous proposons l'audition successive du Capriccio de Jean-Sébastien sur le départ de son frère bien-aimé et de l'œuvre de Beethoven, évidemment provoquée par le même thème, la sonate dite « Les adieux ». Nous n'avons envoyé, bien sûr, que le début de chacune de ses œuvres. L'audition complète du Capriccio de Bach, entendu en premier, nous montrerait une série de petits tableaux de caractère. Une introduction, une fugue, des plaintes, et chaque fois, Bach, ici, comme Vivaldi dans les quatre saisons, le fera, a indiqué quel spectacle et quel sentiment il entendait décrire. Si nous passons à la sonate Les Adieux, qui, après tout, n'est pas âgée de plus d'un siècle, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une sonate de grande dimension et non pas d'une suite de tableautins. L'idée est cependant la même, mais désormais, les sentiments qui accompagnent l'idée d'une séparation, probablement lointaine, sont compatibles avec une forme grande et vaste.
Disons seulement que les trois mouvements portent chacun leur titre. L'adieu, l'absence et le retour.
Là, oui, bien sûr. Et de même que, alors, si on veut rentrer dans le détail du langage musical, on pourrait trouver des détails concrets. Bach termine son Capriccio par une fantaisie sur le cornet de postillon, et Beethoven fait entendre, au début même de l'œuvre, une sorte d'appel de corps.
Bien sûr.
Qui est dans la même idée.
Bien sûr, mais alors, ici, je pense à la symphonie pastorale. ou on pourrait dire de même que Beethoven nous a fait entendre le chant du coucou, de la caille et du rossignol, et puis le bruit du tonnerre dans l'orage. Et pourtant, ça ne peut pas nous faire oublier son indication en marge de la symphonie pastorale, non pas description de la nature, mais évocation des sentiments de l'homme devant la nature. Et il me semble que c'est dans cet effort d'intériorisation que nous saisissons la différence entre le musicien romantique et le musicien baroque.
C'est exactement oui. Ça qu'il faut rappeler.
Il faudrait rappeler là le souvenir de Schindler qui disait que Beethoven lui avait dit qu'il aurait été capable, lui, Beethoven, de mettre un argument derrière chacune de ses œuvres.
Mais que cependant, sa musique pouvait s'en passer
absolument,
et toucher les autres.
Absolument, puisqu'il n'a pas donné les titres pour chacune de ses œuvres.
Nous sommes tout proches, en somme, du procédé de Debussy dans ses préludes.
Oui.
Soumettant le prélude à l'audition du mélomane et indiquant simplement un titre à la fin, avec, suivi de points de suspension. Si vous avez vraiment besoin d'un titre, je pourrais vous proposer cela, mais il pourrait y en avoir bien d'autres.
C'est cela.
Encore une fois, en somme, le romantisme n'est pas terminé au XXe siècle.
Bien sûr.
Mais pour en revenir alors à cette évolution du Capriccio de Bach à la sonate de Beethoven, que je n'ai rapprochée que parce qu'il se trouve que nous savons qu'elles ont un thème commun, si l'on passe effectivement à l'intériorisation qui permet à une œuvre, même douée d'un argument, d'être une œuvre de longue haleine, une grande forme en somme, on voit tout de suite qu'il nous suffirait de franchir encore un cran, de passer du piano à l'orchestre, et ceci est grâce à Beethoven justement, de dépasser l'anecdote pour arriver aux idées générales, aux idées psychologiques primordiales, les idées de privation et d'exhaussement, de séparation et de réunion. Et nous sommes alors tout prêts à accueillir la démarche qui sera si souvent celle de Franz Liszt par exemple. Si je prends l'exemple du poème symphonique Tasso, d'abord Lamento, ensuite Triumfo. Et voilà simplement des principes d'articulation de deux grandes formes musicales. Ou bien encore, dans la danse symphonie, ce mouvement en trois temps, très long, enfer, purgatoire, paradis.
En somme, Beethoven serait à l'origine de ce que les romantiques appelleront par la suite le poème symphonique.
Sinon formellement, du moins par l'esprit, puisqu'il les a habitués à concevoir d'abord que la forme devait être fonction de l'idée, mais que cette forme pouvait rester une grande forme, une structure musicale complexe et cependant imbibée d'un sens psychologique intense.
Ce qu'il appelait lui-même, du reste, le contenu poétique de l'œuvre.
Et d'ailleurs, nous retrouvons là une conviction de tous les compositeurs romantiques. Cette phrase de Schumann, par exemple, « Ce que le romantisme apporte au compositeur, c'est qu'il peut être aussi un poète. »
Et je crois que, justement, il y a un rapport entre cette espèce de catégorie esthétique de la longueur qui a sa valeur propre, et la qualité psychologique et poétique que revêt la musique. Car à partir du moment où la musique n'est plus pittoresque, au sens pictural, au sens descriptif, où elle s'intériorise davantage, elle n'est plus prisonnière de quelques images visuelles ou de quelques concepts, elle rejoint à ce moment-là la durée psychologique elle-même dans son étoffe, dans son déroulement, et elle peut en épouser le cours dans une grande longueur. C'est le début des divines longueurs. On a commencé à en parler à propos de la symphonie héroïque avant d'en parler à propos de Schubert.
De Schubert. Je voudrais rappeler à ce propos une phrase même de Beethoven dans sa correspondance, quand il écrit à Annette Streicher, si vous vous promenez dans les bois de Döbling, je ne me rappelle plus si c'est Döbling, peu importe, eh bien, rappelez-vous qu'ici, Beethoven y a souvent fait œuvre de compositeur, autrement dit qu'il poétisait. Il emploie même l'expression de Tondichter, poète des sons.
Et si
je crois qu'alors là, la liaison est évidente. Enfin,
absolument, alors passons du
père. Il n'est plus seulement un fabricant de musique, il est un poète.
Passant du père du romantisme à ses enfants et voyant Schumann intituler la dernière pièce des Kindersonen, celle où il va se révéler lui-même, le poète parle.
Eh oui.
Mais c'est peut-être grâce aux formes intermédiaires de théâtre musical, je veux dire ces musiques de scène, ou même ces morceaux instrumentaux qui évoquent une évolution dramatique, plus encore peut-être que par son opéra de Fidelio, que Beethoven a été une source d'idées et de modèles pour le romantisme, il me semble. Si nous partons par exemple de la musique de scène d'Egmont, nous allons trouver toute une postérité dans les compositeurs de ce qu'on appelle historiquement le romantisme, qui me paraissent découler de cette situation. Ce n'est plus une musique de convention, le compositeur visiblement a lu la pièce, s'est associé au sentiment des personnages, a compris la situation et c'est devenu pour lui le prétexte d'une œuvre personnelle, quoique absolument associée au texte littéraire pour laquelle il l'a conçue. Si vous voulez, écoutons quelques fragments d'Egmont.
kommst wie ein reines Glück, ungebeten, unerfleht am willigsten. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes. Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören auf zu sein.
C'était le début du mélodrame d'Egmont que nous avions choisi pour représenter cette musique de scène. Et je crois que l'exemple est excellent pour nous montrer en quoi la musique romantique va procéder d'une démarche presque inverse de la musique baroque. On a suffisamment dit, surtout à propos de son architecture et de sa peinture, que le baroque était commandé par l'idée du spectacle et du théâtre. Cela ne veut pas dire qu'il soit dépourvu de lyrisme, et l'exemple de certaines églises baroques, comme l'exemple de la musique de Bach ou des oratorios de Händel, montre suffisamment tout le lyrisme qu'il peut y avoir dans le baroque. Mais disons qu'il me semble, la démarche baroque part d'une vision spectaculaire, théâtrale de l'univers, et en dégage peu à peu les valeurs lyriques. Alors qu'au contraire, la vision romantique, le processus de création romantique part d'une prise de conscience de l'individu comme irréductible, c'est-à-dire du lyrisme, et est capable d'intégrer, d'assumer peu à peu la totalité de l'univers avec toutes ses valeurs multiples, dramatiques, donc théâtrales. Je voudrais rappeler ici simplement le mot de Hugo parlant du rapport entre son moi et l'univers et disant à chaque homme « Je vous parle de moi, insensé qui ne comprend pas que je suis toi. »
Oui, à ces idées incontestables, je crois qu'on pourrait ajouter quelques tests dans la génération romantique en ce qui concerne justement l'intégration du spectacle dans un moi élargi aux dimensions de l'univers. Pourquoi Musset titre-t-il « spectacle dans un fauteuil » Pourquoi est-ce que Schumann intitule une simple sonate pour piano « concert sans orchestre » Pourquoi parle-t-on d'opéra intérieur à propos de certaines de ses œuvres? Il me semble que nous touchons du doigt exactement la même donnée. Mais alors, si nous voulons revenir à la filiation, à la descendance d'œuvres telles que cette musique de scène d'Egmont, je pense que les exemples ne vont pas nous manquer. Il y aurait par exemple la musique de Mendelssohn pour le songe d'une nuit d'été, pas seulement l'ouverture qui est extrêmement connue, mais tout le reste de la partition, qui est une des choses les plus aériennes et les plus féeriques du romantisme. Et si vous voulez, nous allons écouter un des chœurs qui sont les parties les moins connues de cette partition. Beethoven avait vécu en musique la pièce de Goethe. Mendelssohn a vécu en musique la pièce de théâtre de Shakespeare. De son côté, Schumann vivra en musique de la même façon le poème dramatique Manfred de Byron. Nous n'avons malheureusement pas de bon enregistrement des parties les plus caractéristiques. Tout le monde en connaît l'ouverture, mais nous devons simplement mentionner le reste de la partition qui pourtant mériterait d'être entendue. Mais venons-en, si vous voulez, à un exemple qui, dans la postérité de ces formes intermédiaires de théâtre musical d'origine beethovenienne, est une des plus frappantes, en ce sens que c'est désormais la condition même de l'artiste qui va fournir l'objet d'un essai de musique dramatique. Je veux parler du Lélio de Berlioz, la suite, en somme, de la symphonie fantastique.
Lélio, ou le retour à la vie, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, justement par la manière dont Berlioz entend dire « je », et c'est vraiment le « je » sur la place publique. En plus, c'est sa conception de l'art dont il entend débattre sur la place publique.
Et peut-être cela ne lui aurait-il pas été possible, au moins dans la même mesure, s'il n'avait pas existé en musique l'action de grâce d'un convalescent, d'un certain Ludwig von Beethoven, le retour à la vie.
Mais l'exemple Berlioz est encore plus significatif peut-être que les premiers, car avec l'exemple d'Egmont, on partait d'un texte littéraire, celui de Goethe. Avec l'exemple de Mendelssohn, on partait d'un texte de Shakespeare.
Tandis que là, il forge
son propre
argument.
Avec l'exemple de Schumann, on partait d'un texte de Byron. Et les trois indiquaient bien ce rapport entre la poésie et la musique qui est partie intégrante du romantisme. Mais ici, c'est la musique qui suscite ses propres paroles. Et ici, ce n'est pas au chant d'action de grâce d'un convalescent à la divinité que je pense surtout. C'est à la fantaisie pour piano, orchestre et chœur, où pratiquement Beethoven a fait écrire par son ami Kouffner les paroles sur lesquelles il désirait faire de la musique.
Et voilà pourquoi, à la suite de Beethoven, tous les romantiques rêveront d'écrire eux-mêmes leur propre livret, et très souvent le feront.
Et comment on arrivera à Wagner ?
Bien sûr. Alors écoutons un fragment de Lélio, qui, lui, est inspiré d'un passage de la Tempête shakespearienne.
Justement, voici l'heure où mes nombreux élèves se rassemblent. Confions-leur l'exécution de mon esquisse. L'ardeur de ce jeune orchestre me rendra peut-être la mienne. Je pourrai reprendre et achever mon travail. Allons, que les esprits chantent et folâtrent, que la tempête gronde, éclate et tonne, que Ferdinand soupire, que Miranda sourit tendrement, que le monstrueux Caliban danse et mugisse, que Prospero commande en menaçant et que Shakespeare me protège. Laissez la place pour le piano. Ici. Ici. Vous ne comprenez non pas qu'ainsi tourné, les pianistes ne verront pas le chef d'orchestre. Encore plus à droite. Bien. Nous allons essayer ma fantaisie sur la tempête de Shakespeare. Regardez le plus souvent possible les mouvements de votre chef. C'est le seul moyen d'obtenir cet ensemble nerveux, carré, compact, si rare même dans les meilleurs orchestres. Les chanteurs ne doivent pas tenir leur cahier de musique devant leur visage. Ne voyez-vous pas que la transmission de la voix est ainsi plus ou moins interceptée? N'exagérez pas les nuances. Ne confondez pas le mezzo forte avec le fortissimo. Pour le style mélodique et l'expression, je n'ai rien à vous dire. Mes avis seraient inutiles à ceux qui en ont le sentiment, plus inutiles encore à ceux qui ne l'ont pas. Encore un mot, vous, messieurs, qui occupez les derniers gradins de l'estrade, tenez-vous en garde contre votre tendance à retarder. Votre éloignement du chef rend cette tendance encore plus dangereuse. Les quatre premiers violons et les quatre seconds violons soli ont des sourdines. Bien, tout est en ordre. Commencez.
Thank you.
voudrais simplement rappeler, après ce court extrait de Lélio, inspiré par la tempête de Shakespeare, l'importance que Shakespeare avait dans la vie de Berlioz et le choc que ça représentait pour lui quand il l'a rencontré. En 1827, année de la mort de Beethoven, il rencontre Shakespeare par ses œuvres et il dit ceci: « Shakespeare, en tombant sur moi à l'improviste, me foudroya. Je vis, je compris, je sentis que j'étais vivant et qu'il fallait me lever et marcher. » Et ça, c'est bien un engagement véritablement romantique.
Mais là encore, le père a précédé les fils, puisque l'argot en ré mineur du trio opus 70 numéro 1 était d'abord conçu comme une évocation de la scène des sorcières de Macbeth. L'influence shakespearienne a donc déjà joué sur le père du romantisme, comme celle de Goethe, et n'a pas peu contribué à aider la diffusion de ces grands mythes, de ces grands thèmes romantiques shakespeariens, faustiens ou byroniens.
C'était simplement la fin de cet extraordinaire largo en ré mineur à partir du thème de Macbeth. Et je voudrais rappeler ici une phrase d'Hoffmann qui avait été frappée par cette page et par son aspect profondément dramatique. La musique de Beethoven, dit-il, fait jouer les ressorts de la peur, de l'effroi, de la terreur, de la souffrance et éveille cette aspiration infinie qui est l'essence du romantisme. Ainsi, Beethoven est-il purement romantique? C'est étonnant d'avoir ressenti ça, même dans une musique purement instrumentale.
Nous sommes d'autant moins étonnés que, bien des années plus tard, il est vrai, Baudelaire aura quasiment les mêmes termes lorsqu'il dira dans son salon de 1846 « Qui dit romantisme dit intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini. » Et ce dernier terme est textuellement déjà dans Hoffmann. Alors tout ceci exprimé, ajoute Baudelaire, par tous les moyens que contiennent les arts. Et je crois que c'est le meilleur commentaire possible pour le fragment que nous venons d'entendre. Tous les moyens que contiennent les arts, c'est-à-dire que même dans la musique instrumentale, les moyens habituellement réservés à l'orchestre dramatique vont pénétrer, si telle est à ce moment-là l'intention du compositeur et la nécessité d'expression psychologique.
Ici, par exemple, les grandes descentes chromatiques.
Oui, ces effets de trémolo d'orchestre.
Je voudrais ajouter un mot, c'est que lorsque nous entendons aujourd'hui le texte de Hoffmann, nous nous demandons s'il n'exagère pas un peu en parlant de la peur, de l'épouvante,
l'angoisse.
De l'angoisse, car on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la musique de Beethoven nous paraissent une de celles qui nous inspirent de préférence des sentiments pareils.
Cependant,
cette page-là...
si je peux me permettre une parenthèse, pour les contemporains, certainement ces effets étaient ressentis, même déjà dans Mozart, bien que cela
Absolument.
Se soit atténué pour nous peut-être aujourd'hui.
Et c'est ce que je voulais dire, car si l'essence du romantisme, pour de bons juges comme Hoffmann et comme Baudelaire, est l'aspiration vers l'infini, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'une espèce de sentiment métaphysique qui nous ramènerait finalement au christianisme de saint Augustin, purement et simplement. Il s'agit de la volonté de l'homme de se surpasser, de se surmonter lui-même, Par conséquent, il s'agit d'un sens de l'aventure, de l'exploration purement individuelle, qui met en jeu immédiatement un sentiment aigu de la liberté, tellement évident dans tant de procédés de la musique beethovenienne, et en soi-même, à l'aurore de sa liberté, l'homme éprouve toujours une sorte d'angoisse, de peur, devant cet usage, devant ce début d'une aventure qu'il mènera il ne sait pas où. Et cette aspiration à l'infini, parce que nous en avons poursuivi les aventures d'individu en individu jusqu'à nos jours, nous n'en voyons plus que les résultats chez les premiers qui l'ont tenté, mais chez les contemporains immédiats, il est tout à fait normal qu'ils aient été beaucoup plus sensibles que nous aux aspects terrifiants de cette affirmation d'une liberté totale s'engageant dans une aventure sans antécédent et qui ne savait pas elle-même où elle allait.
Une aventure qui a comporté pour tous les romantiques des risques consciemment courus dans tous les domaines. D'abord, et très souvent, une dépense vitale excessive, jusqu'à tous les abus possibles et jusqu'à l'abrégement de la vie dans bien des cas.
Et jusqu'à la folie au terme pour bien d'entre
eux. Par exemple.
Il suffit de penser à Hölderlin, à Nerval, à Nietzsche et à Schumann.
C'est ça.
Pour revenir
alors,
à la
folie,
musique.
Suicide, grande fréquence des morts jeunes. Voilà pour le côté de la dépense vitale. Et ceci, Beethoven avait très conscience de dépenser ses forces vitales dans son œuvre.
Absolument. Quand il a dit à propos d'un mariage qu'il aurait pu faire, par exemple, et si je l'avais fait, si j'avais dépensé toutes mes forces vitales, alors, à ce moment-là, que me serait-il resté pour le meilleur, c'est-à-dire pour l'art?
Oui, il y a vraiment captation pour l'aventure esthétique de toutes les forces vitales, mais ici, il y a dépense, sans compter de l'énergie vitale.
Et parmi les autres risques, celui de scandale du point de vue social, d'abord par la façon de vivre et ensuite par le fait de se livrer tout entier à une opération artistique, ce qui en somme est sans précédent, à s'y livrer corps et âme.
Et de la prendre au sérieux, ce qui est déjà scandaleux en soi pour les philistins de tous les temps.
Exactement. Et d'autre part, il y a ce risque qu'ils assumaient également, c'est que leurs œuvres devenaient de plus en plus difficiles à jouer, étant donné le renouvellement des langages et de la forme. De plus en plus difficile à jouer et également de plus en plus difficile à comprendre.
Oui.
Et ceci a été un des drames de la conscience romantique.
Nous sommes à la naissance de la génération des poètes maudits.
Eh bien, l'intrusion de ces éléments dramatiques dans ce qu'on appelait auparavant musique pure, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il s'agit
on
de musique...
On se demande ce que c'est qu'une musique impure.
Exactement. Nous arrivons aux distinctions qui sont plus ou moins fondées. Mais il est certain que les premiers procédés constatés noir sur blanc sur les partitions d'intrusion d'effets dramatiques dans la musique instrumentale ont eu par la suite, de Beethoven sur les romantiques suivants, un effet fantastique. Et ceci, on pourrait en citer des exemples de détails. Je n'en donnerai qu'un, par exemple. Chacun se souvient du fameux récitatif. Un récitatif, c'est de la parole chantée, en principe. Eh bien, il y a un récitatif pour piano avec les inflexions vocales habituel, traditionnel, dans la fameuse sonate La Tempête.
Opus 31, numéro 2.
Et maintenant, passons du père au fils. Dans la sonate en fa dièse mineur de Schumann, le trio du scherzo est un intermezzo de caractère burlesque. Entendons-nous bien sûr burlesque, il s'agit de l'ironie romantique tant de fois et si merveilleusement définie par Hoffmann et qui est en somme une autre poésie, mais une poésie à l'envers, un négatif. Et ici reparaît ce procédé du récitatif avec des inflexions extrêmement voisines de celles que nous venons de citer de la sonate beethovenienne.
Paraît étonnant dans les deux exemples choisis, c'est qu'effectivement, on sent par derrière la parole déjà toute prête à jaillir. Et dans la sonate de Beethoven, opus 31, numéro 2, si on avait continué encore un peu plus loin cette phrase que vous avez jouée tout à l'heure, Olivier, eh bien, on aurait senti presque déjà le thème de la neuvième apparaître. J'entends du cœur de l'hymne à la joie.
Bien sûr, la parole affleure à la fin, si grand est chez Beethoven le désir de communication universelle. Et si nous nous situons simplement au plan du langage musical, nous verrons que ce procédé, illustré successivement chez Beethoven par la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, puis par le final de la 9e symphonie, lui aussi, ce procédé aura une descendance. Je ne citerai que, par exemple, trois œuvres de Franz Liszt, le final de la Fausse symphonie dans la 2e version, où les chœurs pénètrent dans le 3e mouvement de la symphonie pour faire entendre les paroles du Chorus Mysticus qui termine le second Faust de Goethe, ou encore la fin du Hunnenschlacht où nous entendons l'hymne catholique Crux Fidelis qui symbolise le combat de l'Église contre les barbares. Enfin, dans la 2e version de la Dante symphonie, les chœurs se font entendre également à la fin de la 3e partie, le paradis. Toujours pour cet élargissement des données de la conscience et du moi, d'une façon tout au moins idéale et espérée, aux dimensions du monde.
Il me semble que là, nous avons encore une démarche qui est fondamentalement, essentiellement romantique. Car au fond, ce n'est pas ici du baroque que je voudrais dissocier le romantisme, c'est du classique. Il me semble que pour le classique, l'individu est un homme qui se définit en surface par rapport aux autres, dont la définition est essentiellement sociale, donc superficielle. Alors que, au contraire, pour le romantique, l'atteinte de la véritable réalité, de la véritable identité de ce qui en nous dit « je », ne peut se faire que par le refus des autres et dans une descente en profondeur. Alors, on peut avoir l'impression d'aboutir à une démarche quasi schizophrénique, où l'individu, à force de descendre au fond de lui-même, se coupe totalement de la réalité extérieure, mais de fait, et c'est ici que cette aspiration vers l'infini prend tout son sens, chez tous les grands romantiques, nous observons que ce dont ils se coupent, c'est d'une certaine conformité sociale. S'ils descendent au fond d'eux, c'est de même que Dante bascule de l'enfer au ciel, c'est en descendant au fond de l'enfer qu'il trouve l'orifice du paradis. Exactement de la même manière, le romantique, c'est en descendant au fond de son propre « je » qu'il trouve non pas les autres, mais le « nous ». Donc ce débouché du lyrisme individuel, de la solitude angoissée du récitatif vers l'hymne ou le chant de la communauté humaine me paraît une démarche fondamentalement romantique.
Oui, ajoutons que sur ce point, la réussite beethovenienne reste peut-être exemplaire et c'est celle qui a eu le moins de descendance parce que l'individu Beethoven était peut-être le seul capable, après s'être plongé aux profondeurs, de remonter dans une collectivité humaine rénovée.
De rejoindre véritablement
l'univers. De rejoindre les autres. Beaucoup des romantiques, en particulier les maudits, ont découvert leur malédiction au cours de cette plongée et certains n'ont pas été plus loin.
Oui.
Je crois que c'est une question de force et de grandeur individuelle, tout simplement de la part des créateurs.
Eh bien, écoutons, si vous le voulez, dans la 9e symphonie, comment la voix seule, en récitatif, soudain émerge de l'orchestre pour annoncer le futur hymne à la joie.
Moins de 30 ans après la naissance de la 9e symphonie, l'idée d'achever une symphonie d'orchestre au caractère psychologique déjà affirmé est une chose tellement établie que Franz Liszt peut réussir dans la 2e version de la fausse symphonie, cette introduction d'un soliste, un ténor, et d'un chœur qui fait entendre le chorus mysticus final du deuxième Faust de Goethe. Bien sûr, l'ambiance est totalement différente. On peut dire que le projet est moins ambitieux. Liszt vient de peindre successivement Faust, Marguerite et Méphisto. C'est donc, si l'on peut dire, une symphonie psychologique, une sorte de grand portrait symphonique, une série de portraits symphoniques. Mais pour donner la substance idéale et religieuse, au fond, selon laquelle il conçoit, je pense, le Faust de Goethe, il a l'idée, dans la deuxième version, d'achever l'œuvre par le Chorus Mysticus, qui est chanté dans la version goethéenne par les anges au moment de la rédemption finale de l'âme de Faust. Il y a donc chez Liszt ce phénomène nouveau, nous sommes en plein développement du romantisme, que la destinée de l'artiste mérite une sanction dans l'au-delà. Ceci est un point de vue peut-être un peu particulier dans l'ensemble du romantisme général, mais enfin les cas ont été fréquents. Je vous propose d'écouter la façon dont, à la fin de la troisième partie, c'est-à-dire Méphistophélès de la Fausse Symphonie, le chœur va à son tour émerger dans cette symphonie psychologique.
Thank you.
entre le final beethovenien et le final de Liszt, la ressemblance qui me frappe le plus, c'est qu'ils sont tous les deux affirmation d'un rêve. Rêve prophétique de l'avenir chez Beethoven, rêve mystique de l'au-delà chez Liszt. Dans les deux cas, nous retrouvons cette donnée romantique fondamentale dont nous n'avions pas encore parlé et qu'il faut évoquer en finissant, celle du rêve. Un rêve qui ne paraît nébuleux que parce qu'il découvre des réalités encore inconnues, un rêve qui est toujours mené chez Beethoven pour commencer avec une intelligence extraordinairement aiguë et lucide au plus épais et au plus obscur de ses plongées.
Rêve qui est l'expression d'un au-delà de soi-même.
Rêve qui est toujours la projection de l'individu le plus profond et le plus lucide, donc en même temps.
Mais à partir de ce moment-là, chaque individu devient une singularité. Il vit son propre rêve. Il est, comme disait Hoffmann, le masque de lui-même. Et c'est pourquoi le carnaval a tant d'importance. Mais avec l'éveil de toutes ces singularités profondes qui visent à devenir universel dans la communication, on ne peut plus, après Beethoven, parler d'histoire de la musique, il faut parler d'histoire des musiciens.
C'est par le Chorus Mysticus de la Symphonie Faust de Franz Liszt que s'achève cette première séquence du cinquième et dernier cycle de Beethoven année 200 par Brigitte et Jean Massin, avec aujourd'hui Olivier Alain, une émission diffusée la première fois le 7 janvier 1971.
Thank you.